Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, nous vous proposons un réécoute ce soir. Eh bien, mauvais départ pour le siècle, comment préparer l'avenir au carrefour de l'économie, de l'écologie et de la science à partir d'un constat amer. Et nous tenterons d'opposer des réponses positives. Oui, le siècle nous semble assez mal parti. Il n'est pas certain que nos sociétés et leurs gouvernants aient pris toute la mesure des enjeux démographiques, écologiques et sociaux qui sont devant nous. Nos sociétés ne sont pas les premières, bien sûr, à s'inquiéter des dégradations de l'environnement ou des menaces qui pèsent sur lui. Mais ce qui se passe depuis le milieu du XXe siècle est sans précédent, au point que le terme de crise environnementale, longtemps utilisé, n'apparaît plus pertinent. Une crise atteint un pic, nous dit notre invité ce soir. Puis elle trouve une issue, elle est supposée temporaire. Ce n'est pas le cas ici, aucun retour à la normale n'est prévu. Au contraire, la gravité, l'étendue des problèmes s'accroissent et accélèrent, déjouant les prévisions. On a donné un nom au phénomène, l'anthropocène. Il pointe clairement la mainmise de l'humain sur la nature et sa capacité à la détruire. Cette interprétation est-elle pour autant satisfaisante? Ne comporte-t-elle pas des ambiguïtés, des visions paradoxales ou réductrices? Pour la recherche en tout cas, c'est un sacré défi et notre invité demande de favoriser la rencontre entre les sciences de la nature et les sciences sociales. On ne peut pas faire autrement, selon elle. Bonsoir Catherine Larère.
Oui, bonsoir. Oui, effectivement, l'Anthropocène, la proposition en a été faite en 2000, donc au tout début du 21e siècle, par deux scientifiques, dont un prix Nobel de chimie, Crutzen. Proposition donc de donner un nouveau nom à une ère ou une époque géologique. Alors, jusqu'à présent, et toujours, puisque la décision n'a pas été prise, nous sommes censés être dans l'Holocène, qui est une période qui a commencé il y a environ 10, 12 000, 13 000 ans, et qui a coïncidé, disons, avec une température relativement élevée. On sortait de la période beaucoup plus glaciaire qui avait été celle du Pléistocène, et surtout un climat relativement constant, sans modification brutale. Et cet âge a été l'époque où l'humanité se développe, se civilise, où elle invente l'élevage, l'agriculture, où elle va développer à partir de là des villes, des civilisations, etc. Et donc, cette période dans laquelle nous sommes toujours censés être, et qui est donc une période de l'histoire de la Terre...
Avec la présence de l'homme, donc, déjà.
Avec la présence de l'homme.
Qui est un point important.
Mais qui en bénéficie, disons. Voilà. Mais ce qui aide à la caractériser, ce sont des données géologiques. Alors, pourquoi proposer une nouvelle période? Eh bien, l'idée que, dans son développement, justement, l'humanité a acquis une telle force, un tel impact, qu'elle pèse de tout son poids sur la Terre, elle en modifie les cycles, les équilibres, elle en dérange le système, finalement, à tel point qu'on entre dans une nouvelle époque. Alors, ce serait une époque géologique aussi, une époque de l'histoire de la Terre, mais de laquelle on ne pourrait plus différencier l'histoire humaine. Donc, une des caractéristiques de l'Anthropocène, c'est de mettre fin à ce partage qui a été très commode pour le partage des disciplines entre ce que font d'un côté
les spécialistes des lois de la nature,
lois de la nature et l'histoire humaine,
les comportements des hommes.
Voilà. Et là, ça se mélange.
Ça n'est plus possible de les séparer, ce qui ouvre un champ absolument passionnant et déjà très exploré de connaissances.
C'est pour ça que ça a passionné non seulement ceux qui font des sciences de la nature, mais ça a passionné aussi les spécialistes de sciences humaines, parce que justement, ce qui était leur domaine, c'est-à-dire un domaine délimité à l'extérieur duquel se trouvait la nature, eh bien, peut-être qu'il faut changer, il faut voir les choses autrement.
Alors, vous parliez de Paul Crutzen, un prix Nobel, vous le disiez au début des années 2000, qui a trouvé ce terme-là.
L'article, je crois qu'il il y a une série d'articles, mais je pense que le premier article est publié dans Nature en 2000.
Son hypothèse à lui, donc, c'était cette planète entrait dans une nouvelle ère géologique, comme vous venez de l'expliquer. Mais lui partait surtout de cette rupture avec une concentration excessive de dioxyde de carbone, de méthane. Est-ce qu'il parlait déjà à l'époque d'épuisement des ressources, de problèmes de gestion de l'eau, de biodiversité qui disparaissent à une vitesse inquiétante?
c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire.
Ah, il est plutôt parti de là.
Non, je parle pas de Knudsen.
D'accord.
Mais je parle, quand on commence, je crois que vous avez renvoyé au milieu du 20e siècle, et c'est à peu près ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans les années, fin des années 50, années 60, quand on commence à se dire qu'on a peut-être commence à avoir des problèmes dans le rapport avec notre environnement naturel. C'est beaucoup sur une histoire d'épuisement de ressources. C'est beaucoup sur une histoire de démographie.
C'est vrai qu'à l'époque, le climat était ce qu'il
était. Et le climat, d'abord, on s'en rend pas compte.
Visible.
Et la mesure de la concentration de l'atmosphère en CO2, plus généralement en gaz à effet de serre, est en train de se faire. Donc, le GIEC, le groupe
d'experts internationaux
sur le climat, il est formé en 1988. Quand on se dit qu'il commence vraiment à y avoir une question. Donc, on va se poser des problèmes sur excédent démographique, pression démographique, épuisement des ressources, qui sont des inquiétudes relativement anciennes. Et ce qui va donner l'impulsion vers l'anthropocène, c'est le caractère global du climat. Parce qu'on peut dire que, l'épuisement des ressources, ça peut être sur tout le globe, mais c'est en des lieux. C'est-à-dire que l'atmosphère, elle nous englobe complètement. Donc on passe vraiment à la question globale.
Alors pourquoi discute-t-on de ce sujet de l'anthropocène ? Parce qu'il y a des critiques très, très courantes sur ce terme-là. La première, l'anthropocène ferait de l'humanité le sujet unifié de l'histoire. En fait, c'est pas si simple que cela. C'est pas partout de la même manière qu'on a pu agir sur le climat. S'il est vrai que les hommes ont agi, enfin s'il est vrai, on le sait aujourd'hui que les hommes ont agi sur le climat, cela n'est plus discutable, mais pas partout de la même manière. Alors, et donc dire par exemple que ce sont les États occidentaux, oui, mais ça veut dire qu'on écarte tous les autres ?
Là, effectivement, si c'est ce phénomène global qui est le résultat des actions de l'humanité, on peut dire que c'est l'humanité comme espèce. En même temps, c'est pas également tous les individus et surtout toutes les populations de l'humanité. Donc quand on s'est posé des questions sur à partir de quand est-ce que ça commence, parce que ce qu'on constate, c'est dans la concentration des gaz à effet de serre et puis d'autres phénomènes, on a assez raffiné les analyses depuis une vingtaine d'années. Donc, non seulement le cycle du carbone, mais le cycle de l'azote, l'érosion de la biodiversité, la montée des pollutions, etc., etc. Quand on se demande d'où ça vient, on se dit, cette accélération, le terme est souvent employé, c'est lié à la société industrielle, c'est lié au capitalisme, donc c'est lié au développement, disons, occidental à partir du 19e siècle. Et donc, un certain nombre de gens, d'historiens, ont dit, faut pas parler d'anthropocène. Anthropos, en grec, ça veut dire homme, donc faut pas parler des hommes en général. Il faut parler du capitalisme, donc on a proposé de parler de capitalocène.
Oui. Capitalocène, c'est la proposition de Jean-Baptiste Fressos.
En France,
en France, oui. Ou d'anglocène, d'ailleurs.
Alors oui, ça, en plus, parce que on peut dire, mais c'est la machine à vapeur, enfin c'est pas tout le capitalisme. Il y a tout un débat d'ailleurs. Et c'est un certain type de capitalisme, c'est ce passage fin 18e, début 19e siècle, où on passe du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, et on surajoute le pétrole au charbon. On se rend compte actuellement qu'on n'a pas abandonné le charbon.
Bien sûr, alors voilà la première critique. La deuxième, parler d'anthropocène, ça a quelque chose d'assez arrogant au fond, c'est d'être très, une fois de plus, anthropocentriste. L'homme serait donc le seul responsable, mais comme force globale qui a du pouvoir sur tout le reste. L'humanité serait la seule importante sur la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on fait des autres espèces ?
Alors, c'est une façon, effectivement, de se mettre au centre du monde.
De nous mettre au centre du monde, voilà.
Et qui est quelque chose qui est assez courant, mais finalement, c'est pas ce que font les scientifiques. En général, au contraire, le regard scientifique décale, il découvre l'univers, il découvre l'infiniment petit. Là, on remet l'homme, et ça a quelque chose...
Au centre,
ça a quelque chose d'un peu ridicule, parce que si on pense, je disais, l'Holocène commence il y a 13 000 ans, le Pléistocène, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Alors déjà, l'Holocène, c'est un peu l'époque de l'homme. Parce que s'il n'y avait pas le développement de l'humanité, on pourrait dire... Finalement, c'est une période interglaciaire. L'anthropocène, il y a des débats pour savoir quand on fait commencer. Est-ce qu'on fait commencer à la fin du 18e siècle ? Est-ce qu'on fait commencer au milieu du 19e ? Est-ce qu'on fait commencer après la Deuxième Guerre mondiale, après la bombe atomique ? C'est là que l'accélération... Mais dans tous les cas, c'est extrêmement court. Quand vous regardez le temps
bien sûr.
De la Terre. Hein,
on depuis, parle de même pas 100 ans, on parle de...
Non, on parle à peine. Alors, en plus, l'Anthropocène, c'est quelque chose qui est entièrement au futur. C'est une époque à venir.
Oui, on dit nous entrons dans l'ère de l'Anthropocène. Voilà. Pour l'instant, on est à la porte. Oui.
Voilà. Donc, c'est une façon de dire, parlez-nous de nous, il n'y a que ça qui nous importe. Et en plus, c'est très ambigu, parce que quand on le présente, on dit, c'est la puissance de l'homme. Alors, ça a l'air d'être un triomphe humain. Or, nous savons que ça va mal.
Et l'homme n'a pas de quoi être très fier.
Il n'y a pas de quoi être très fier.
Et j'aime beaucoup d'ailleurs, je crois que c'est dans l'introduction d'un colloque, c'était en 2015, où vous posiez ces questions avec Rémy Baud, philosophe comme vous. Vous parlez d'une nouvelle blessure narcissique. Je trouve ça formidable, parce que la première, c'est le jour où, enfin peut-être pas la première d'ailleurs, mais le jour où il a fallu découvrir que la Terre n'est pas le centre du monde.
Mais oui, c'est Galilée.
Voilà, c'est Galilée.
C'est la vision moderne et que, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, que la Terre tourne autour du Soleil et que le monde, l'univers ne se résume pas à la Terre et au Soleil.
Et la Terre d'ailleurs pourrait bien, on va y venir un peu plus tard, se passer de l'homme alors que l'homme ne pourra pas se passer d'elle. C'est bien cela qu'il faut retenir.
Donc la deuxième, c'est Darwin. C'est-à-dire que l'homme n'est pas descendu du ciel, il a coévolué avec le reste de du vivant. Et puis ensuite, c'est Freud et le...
Bien sûr. Et vous citez aussi Blaise Pascal, dépité parce que l'homme n'est visible ni d'un télescope, ni dans un microscope.
Et là, nous nous remettons au centre, mais pour découvrir que nous ne sommes pas là pour faire du bien à la Terre.
La troisième critique assez courante que l'on fait à l'Anthropocène, c'est que n'apporte rien de nouveau, puisqu'on a toujours les hommes, donc depuis l'Holocène, dont vous parliez aussi, transformer leur environnement. Mais là, on peut tout de suite dire, d'accord, mais alors, pas à cette vitesse,
alors, là, et pas y a avec une cette ampleur. Et puis alors,
il y a une accélération encore plus.
Une distinction, et c'est important si vous voulez. Alors, je disais l'article de Nature, mais avant, il y a un article dans une revue qui traite de la Terre comme système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre deux choses. À partir du moment où les humains sont sur Terre, on peut repérer leurs traces. Même des petits groupes d'hommes, quand ils commencent à faire du feu, on repère. Donc le problème n'est pas ce qu'on pourrait appeler l'anthropisation, c'est-à-dire la terre dans laquelle nous portent nos marques. Ça, c'est, disons, l'Holocène. L'anthropocène, c'est que nous transformons le système Terre, l'ensemble du cycle, et de façon... Alors, irréversible, c'est un mot un peu difficile à obtenir, à utiliser, parce que dans un très très long temps, rien n'est irréversible, mais de façon irréversible pour nous.
Mais l'agriculture, Catherine Larère, c'était déjà une transformation de la nature.
C'était
Et d'ailleurs, certains l'en accusent.
Tout à fait. C'était une anthropisation, mais... Souvenez-vous de toutes ces images, je repense à Malraux, les hommes abandonnent des temples, la végétation reprend le dessus, la nature reprend ses droits, comme on disait. L'anthropisation, elle est réversible. L'anthropocène, il est irréversible, du moins sur une période qui a un sens pour les humains.
Bien sûr. Autre thèse qui est tout à fait intéressante, la thèse d'un historien qui est spécialiste d'une histoire postcoloniale, c'est un Indien, Dipesh Chakrabarty. Lui aussi nous dit, mais non, il faut penser une histoire globale, on n'est pas seulement dans l'histoire sociale du capitalisme, que ce serait le 19e, fin 18e, peu importe, ou la machine à vapeur. Il faut être beaucoup plus large, avoir une pensée, une responsabilité beaucoup plus large, penser l'humanité responsable. Si on dit qu'elle est responsable de tout, elle n'est plus responsable de rien, en gros.
Bon, alors, ce qui est très intéressant dans la position de Dipesh Chakrabarty, qui est effectivement un historien, il est d'origine indienne, c'est un historien postcolonial, qui a beaucoup travaillé sur les questions coloniales et sur l'époque qui succède, en tant qu'Indien, c'est important pour lui. Alors, il écrit 4 thèses sur le climat, où il est un des premiers, c'est un historien, spécialiste de sciences humaines, à essayer de tirer les leçons en sciences humaines de ce qui se passe en science de la Terre. Et il dit, bien justement, ce qui caractérise l'Anthropocène, il reprend l'article de Crutzen et un certain nombre d'articles du même genre, c'est qu'on ne peut plus faire la séparation claire entre ce qui relève de la nature et ce qui relève des hommes, ce qui relève des sciences ou de l'histoire naturelle, ce qui relève de l'histoire humaine. Or, qu'est-ce qui est remis en cause? Qu'est-ce qui nous rendait notre histoire compréhensible, dit-il, c'est que nous la faisions nous-mêmes. Vieille histoire de Marx, les hommes font leur histoire, etc. Or, maintenant, elle est faite par la nature autant que nous la faisons, et donc, elle ne nous est plus véritablement accessible. Et donc, dit-il, nous devons nous considérer comme une espèce, comme l'espèce humaine, et pas uniquement comme des sujets historiques qui font leur histoire. Ça pose problème parce qu'on peut se demander si, effectivement, c'est pas une façon d'attribuer à la nature une responsabilité qui est sans doute pas celle de tous les hommes, ça c'est sûr, qui est celle des capitalistes. Est-ce qu'on n'atténue pas cette responsabilité en disant ben, « faut nous considérer comme une espèce ». En même temps, ce qu'il dit, et je crois qu'il est important, c'est que on ne sait pas combien de temps durera le capitalisme, mais les conséquences du capitalisme risquent de durer plus longtemps que le capitalisme, oui. Et donc de peser sur toute l'humanité.
Mais est-ce qu'il ne va pas encore plus loin en nous disant que finalement, l'histoire humaine est certes pour nous capitale, mais que ça n'est qu'une partie de l'histoire de la vie sur la planète?
Ça, c'est sûr. Ce qui nous rappelle aussi, c'est aussi à une autre forme de, disons, de modestie, qui est que le monde ne disparaîtra pas avec nous.
C'est ça. Hein?
Ça, c'est beaucoup ce que disent les tenants de l'hypothèse Gaïa, qui
consiste... Gaïa la Terre.
Voilà. Gaïa la Terre, et la Terre qui est une sorte de grand être vivant et qui donc s'autorégule, plus ou moins bien.
On dit même qu'elle pourrait bien se venger de l'homme.
Oui, alors là, justement, Gaïa, c'est un nom de déesse, donc on lui redonne des sentiments.
Pouvoirs.
Disons qu'elle a des réactions assez imprévisibles et qu'il faut se méfier d'elle. Mais ça veut dire que Gaïa nous survivra. Ça, quelqu'un comme Isabelle Stengers dit ça très bien en disant « mais il y aura toujours des bactéries hein. ». Peut-être que si nous disparaissons plus vite que nous ne le devrions, dans les temps donnés, il y aura d'autres vivants qui disparaîtront avec nous. Mais pas tous les vivants. Et ben, la Terre, elle a connu pire. Donc, nous ne coïncidons pas avec la Terre. Nous ne coïncidons pas avec l'histoire de la Terre. Nous avons absolument besoin de la Terre. La Terre n'a pas beaucoup besoin de nous.
Je reviens quand même un petit peu en arrière sur la thèse de Jean-Baptiste Fressoz en France. Hein. Fressoz est historien. Et il y a d'autres chercheurs ailleurs qui ont la même, cette idée donc de capitalocène. C'est quand même la position de nombreux pays du Sud. On a là de pays en voie de développement ou de pays émergents même. Il y a une grande responsabilité du Nord. Certains parlent même de colonialisme environnemental.
Oui, c'est tout à fait justifié. C'est-à-dire que ce qu'on avait bien montré à quel point la présence coloniale, impériale de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, etc., sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, sur l'Inde, a été une oppression sur les hommes. Ça a été aussi une destruction des régions. Et donc
pillage des ressources,
le pillage des ressources, c'est à la fois appauvri les hommes et la terre. Et la très mauvaise situation environnementale d'un certain nombre de pays du Sud est à renvoyer au temps colonial. Et alors qu'on a beaucoup parlé d'échanges inégaux dans les années 70, pour dire que les termes de l'échange entre le Nord et le Sud étaient toujours défavorables au Sud, mais c'est un échange non seulement économiquement inégal, c'est un échange écologiquement inégal. Et de ce point de vue-là, on peut dire par exemple que le Nord fait fabriquer au Sud des produits, et le Sud non seulement ne les consomme pas, mais souffre des prédations écologiques que ça crée. Donc ça, c'est sûr. Bon, le problème, à partir de là, est-ce que les gens du Sud peuvent dire, ben, au fond, ce qui a été leur attitude au début, au fond, vos histoires d'écologie, on s'en moque.
Et ce que vous avez fait, on a bien le droit de le faire aussi, etc.
Ce que vous avez fait, on a bien le droit de le faire aussi.
On entend plus ce discours quand même.
Et, ben oui, pourquoi? Parce que ils n'avaient pas tort. Mais le problème, c'est que le changement climatique, ils en subissent les conséquences, et ils en subissent les conséquences
plus durement
que nous. Pour des raisons qui sont géographiques, parce qu'ils sont au bord de la mer, etc. Pour des raisons aussi qui sont beaucoup plus vulnérables et qu'ils ont beaucoup moins... Les Hollandais, par exemple, ils ont la moyenne de refaire des digues.
Au Bangladesh,
dans le Bangladesh, c'est
plus compliqué.
Difficile.
Est-ce la lune ou le ciel, tout autour de la terre, ou le ciel à l'inverse, qui renverse l'océan, tout autour de la terre, qui la lune ou le ciel, nous balance l'enfer, réduit tout à néant, qui dévaste la terre, et déborde le ciel, met la lune à l'envers, et autour l'océan, c'est l'océan, c'est l'océan, l'océan. Quel colorant éclair a lessivé la terre, où le ciel à l'inverse colorait l'océan, tout autour de la terre, paradis et enfer ne sont qu'une ombre seule, dans un souffle plus grand qui dévaste le ciel, réduit tout à néant, inonde l'atmosphère, met tout sous l'océan. C'est l'océan.
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 Est-ce la lune ou le ciel, tout autour de la terre, ou le ciel à l'inverse, qui renverse l'océan, tout autour de la terre, qui la lune ou le ciel, nous balance l'enfer, réduit tout à néant, qui dévaste la terre et déborde le ciel, met la lune à l'envers et autour l'océan. C'est l'océan.
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 Quel colorant éclair a lessivé la terre, ou le ciel à l'inverse, coloré l'océan, tout autour de la terre, paradis et enfer, ne sont qu'une ombre seule, dans un souffle plus grand, qui dévaste le ciel, réduit tout à néant, inonde l'atmosphère, mais tout sous l'océan. C'est l'océan, c'est l'océan, c'est l'océan. Est-ce la lune ou le ciel, tout autour de la terre, ou le ciel à l'inverse, qui renverse l'océan, tout autour de la terre, qui la lune ou le ciel, nous balance l'enfer, réduit tout à néant, qui dévaste la terre, et déborde le ciel, met la lune à l'envers, et autour l'océan, c'est l'océan, 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 c'est l'océan, 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 c'est l'océan, 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 c'est l'océan.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Catherine Larère, juste un mot, Fred Nefché, c'est le chanteur que nous entendons à l'instant, l'océan. On disait en l'écoutant, les artistes de tous bords d'ailleurs s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Nous avons trouvé un nombre considérable de chansons autour de ces thèmes.
Oui, je trouve ça passionnant et c'est, je pense, le signe d'une... que le mot, l'idée sont porteurs. Et quand il y a une... mobilisation de la création artistique autour de ces questions, c'est le signe, c'est des choses importantes. J'espère aussi que c'est le signe d'une mobilisation pour prendre nos affaires en main.
Un peu plus importante encore.
Un peu plus importante encore.
On a donc balayé cette idée de l'anthropocène avec ses raisons ou pas de défendre ce terme. Hein. On va voir quelle est votre position à vous aussi. Je crois qu'on l'a un petit peu deviné. Mais adopter donc cette idée d'anthropocène, c'est bien admettre que les dégâts sont irréversibles. Ceci, nous l'avons dit. Maintenant, quelles sont les réponses une fois qu'on en a fait le constat? Est-ce qu'il s'agit de l'accepter et de survivre à l'effondrement ou est-ce qu'on passe par, on va peut-être commencer avec ça, par le contrôle justement? L'homme, après tout, a toujours agi sur la nature, il a détruit le climat, et bien il va le réparer.
Alors ça, je crois que c'est la grande ambiguïté justement du terme, hein, parce que remettre l'homme au centre et constater sa puissance, c'est de dire, ben ça y est, on y est arrivé. Descartes disait, les hommes seront comme maîtres et possesseurs de la nature. Ben ça y est, on y est, et on y est au niveau global. Donc au lieu d'agir uniquement en tel ou tel point du globe, on va prendre les choses en main, les manipuler. On va envoyer des particules de soufre dans l'atmosphère.
Juste le terme, on appelle ça la géo-ingénierie. Hein. Et ça prend des proportions importantes.
Donc une ingénierie au niveau de la Terre dans son ensemble. Ben, le problème, il y a de quantité de problèmes, mais le plus gros problème, c'est que tous nos problèmes environnementaux viennent des conséquences involontaires de nos actions techniques. Donc là, l'idée que on va créer un hiver, par exemple, on va faire tomber la température, on envoie des particules de soufre dans l'atmosphère, ça
rafraîchit.
Ça rafraîchit.
Il paraît que ça vient d'une éruption volcanique qui avait été observée aux Philippines pendant quelques jours ou semaines avait refroidi l'atmosphère.
Alors il y a eu un très joli livre qui a été traduit l'année dernière à la Découverte et qui raconte effectivement il y a eu un volcan qui a eu une énorme éruption. Pendant un an, il n'y a pas eu d'été. Il y a eu des conséquences extrêmement nocives. Peut-être qu'on diminuerait la température, mais avec des conséquences bien pires. J'ajoute en plus, ce qui n'est pas le cas de l'éruption volcanique, c'est qu'une fois qu'on aurait commencé, on ne pourrait plus s'arrêter. Donc ce serait un peu embêtant.
Parce que
sinon, la hausse des températures recommencerait en pire.
D'autres méthodes, toujours dans la géo-ingénierie, mais on peut comprendre aussi que les scientifiques soient stimulés, excités par ces perspectives et nous proposent constamment autre chose, mais fertiliser les océans. Là,
oui.
C'est en mettant du fer,
du fer, et donc je pense qu'on attraperait de l'oxygène, en tout cas on diminuerait l'acidité des océans. Bon, là aussi, peut-être qu'on y arriverait. Il faut regarder les conséquences secondaires. Il faut regarder aussi le type, parce qu'une technique, c'est jamais purement un rapport uniquement avec la nature, c'est aussi un rapport social. Quel type de rapports sociaux ça crée ? Il n'y a pas une solution simple. Il y a profondément de transformer nos modes de vie.
Bien sûr. Bloquer les rayons du soleil, étendre des bâches dans le désert, on peut s'amuser. Énormément d'idées qui circulent. Et ça s'appelle la modernité. Mais c'est au fond une version, là je m'adresse à la philosophe, c'est encore une autre forme d'arrogance, de surestimation de nos pouvoirs.
Mais je crois que si on pense que l'anthropocène, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de l'idée que nous pouvons tout prévoir. C'est ce que Auguste Comte avait dit, hein. Savoir c'est pouvoir, et pouvoir c'est prévoir. Donc toute notre maîtrise scientifique a été construite sur la sûreté des prévisions. Or, c'est ça que remet en cause l'anthropocène, c'est-à-dire que si on pense qu'on change de régime de prévision, on entre justement dans l'imprévisible. Or, ceux qui sont dans la géo-ingénierie, etc., ils continuent la modernité en disant simplement on va la passer à un niveau supérieur, on va agir directement au niveau, puis tant qu'à faire, autant partir sur d'autres planètes, hein, aller en former d'autres ou n'importe quoi. Donc, ils ne prennent pas en considération les conséquences de notre puissance technique qui est de nous demander de la remettre en cause.
L'autre position, alors il y a vraiment deux récits opposés, hein, on vient de parler de ce contrôle un peu arrogant, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire ceux qui nous disent, de toute façon, la planète nous échappe, c'est trop tard, là, on court à la catastrophe.
Alors voilà, c'est l'autre.
C'est pas réjouissant non plus.
Alors encore moins réjouissant, au sens, alors où on prend au sérieux. Anthropocène, on change d'époque, et qu'est-ce qui caractérise ? Alors, il y a des phénomènes irréversibles, mais il y a aussi un type de régime, on entre dans, disons, une causalité complexe, avec des boucles de rétroaction, des formes d'accumulation, de causalité non linéaire, et la possibilité de rupture brusque. En anglais, on dit tipping points, on arrive à un point, hop ! Tout d'un coup, ça change. De ce point de vue-là, en prenant le terme de catastrophe au plus neutre possible, il y a la possibilité de catastrophe. C'est pour ça que je disais, on n'est plus dans le régime de prévision de la modernité.
Oui, mais alors on ne peut pas, on ne sait pas quand.
Voilà,
c'est ça, le problème.
Alors, c'est pour ça que je ne suis pas catastrophiste.
On ne sait pas à quelle vitesse, on ne sait pas, on sait rien.
Parce que
en fait.
Ce qui définit la catastrophe, par définition, c'est qu'elle est imprévisible. Devant l'imprévisible, ainsi non prévu, si je puis dire, l'attitude la plus rationnelle, c'est de n'en tenir aucun compte. Donc, de ce point de vue-là, moi, je dirais, de savoir que la catastrophe est possible, ça ne donne aucune possibilité.
Ça sert à rien.
Ça sert à rien.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? La précaution ? Comment ?
Alors, la précaution, au sens très juridique du terme, c'est-à-dire l'idée que, justement, il ne faut plus attendre que les scientifiques nous disent des choses qu'ils ne peuvent plus nous dire pour prendre des décisions. De ce point de vue-là, on peut dire que ce nouveau régime de prévision, où l'imprévisible a de plus en plus d'importance, donne plus d'importance aux politiques et à la réflexion politique. Je pense que la politique, c'est... Bon, il y a longtemps qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Mais on a un petit peu réglé le gouverner, c'est prévoir sur la prévision scientifique et technique. Je crois qu'il faut réapprendre à être plus politique. Je crois aussi, et pour moi c'est ça qui est important, c'est qu'on se laisse un peu fasciner par le global. Et au niveau global, on est dans le catastrophisme, parce que on est dans une causalité systémique où justement ces tipping points peuvent intervenir. Je pense.
Et ça, c'est indiscutable aujourd'hui.
Ah, ça peut intervenir, oui. Oui, mais on peut pas le prévoir.
Mais on sait pas quand.
On sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas.
Ni à quelle vitesse, ni quoi. Voilà.
Et accorder plus d'importance au local, parce que localement, il se fait quantité de choses et positives.
Et là, il faut avoir confiance.
Voilà, je crois que c'est la deuxième chose importante, et c'est la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas catastrophiste. Je pense que le catastrophisme a, sur un constat d'impuissance, nous ne pouvons plus rien faire. Donc, nous ne pouvons plus que rentrer à nous-mêmes et essayer d'être plus sages. Et il y a une perte de confiance en nous-mêmes. Et je pense qu'au contraire, si nous voulons vivre le mieux possible dans le monde tel que nous l'avons transformé, il faut que nous retrouvions confiance en nous-mêmes en prenant en considération que nous sommes en rapport avec notre environnement, avec, bon, pour employer le terme d'Augustin Berck, hein, notre milieu, notre mésologie. Nous sommes en relation avec le monde dans lequel nous nous trouvons. Et ça devrait nous redonner confiance.
Oui, Augustin Berck, encore quelqu'un qui avait prévu tout ça, qui avait prévu, qui avait déjà senti la gravité de ce problème, parce qu'il y a des années qu'il travaillait là-dessus.
Tout à fait. Et il a senti aussi à quel point c'était aberrant de parler de l'humain sans prendre en compte son environnement, ce qu'il appelle son milieu.
Il y avait là une forte intuition
par
rapport à ce que nous vivons aujourd'hui.
Oui.
Et le rôle de la nature elle-même dans tout ça, est-ce qu'on en tient assez compte de ses interactions avec l'humanité, est-ce qu'on laisse assez de place, je ne sais pas, au processus naturel.
Alors, à supposer qu'on puisse parler de nature, puisque le terme même est discuté, mais je dirais, où on peut prendre l'anthropocène au sérieux, c'est justement que c'est plus une nature prévisible, soumise, c'est une nature, qu'on pourrait dire, autonome. Il y a une philosophe et historienne des sciences américaines qui s'appelle Caroline Merchant et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Autonomous Nature, des natures autonomes. Dans la foulée de ce que nous disions, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes, est de plus en plus imprévisible. Donc, nous devons nous attendre à avoir en face de nous une nature qui fait un peu plus ce qu'elle veut. Et donc, oui, il faudra en tenir plus compte.
Ça veut dire que nous devons davantage la laisser faire.
La laisser faire, être attentive, être dans une relation, pas de domination.
De partenariat,
une éthique du partenariat.
C'est cela. Philippe Descola aussi, on connaît sa position et sa lucidité. Ça, c'est l'anthropologue qui parle.
Alors,
cette
Philippe
fois.
Descola a été très important dans le fait qu'il a dit attention, occidentaux, votre conception de la nature, elle n'est pas universelle. Il nous a mis en obligé de prendre compte de la diversité des façons d'avoir rapport à notre environnement.
D'autres cultures.
Lui, il dit d'autres ontologies, parce que pour lui, c'est une autre façon de distribuer les existants, et que notre façon occidentale, qui est de dire il y a la nature d'un côté, il y a les humains de l'autre, eh bien, elle n'est pas universelle, elle n'est pas propre à tout le monde. Elle nous a donné, d'une certaine façon, la science, telle que nous la maîtrisons. Mais là, nous en voyons le bout. Il faut trouver autre chose. Quoi.
Pour revenir sur les relations entre les pays, bon, c'est un peu rapide de dire les pays du Nord et les pays du Sud, disons les pays industrialisés et développés et les pays en développement ou même les pays émergents. La thèse des pays du Nord aujourd'hui, dans toutes les rencontres, on l'a vu dans les différentes COP, est de dire au fond à ces pays-là, mais d'accord, nous avons abîmé la planète, mais nous ne le savions pas. On ne savait pas qu'on était en train de faire
ces histoires de conséquences involontaires. Hein,
voilà.
Quand on s'est mis à brûler du charbon, du pétrole de plus en plus, on ne savait pas qu'on envoyait du CO2 dans l'atmosphère.
Voilà. En revanche, vous le savez.
Oui, ce
maintenant.
Qui est un peu dur. Ce qui est un peu dur.
Hein. Vous pensez de ça. Vous le savez, donc vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes conscient de ce qui se passe.
Alors effectivement, les premiers accords des Kyoto, donc dès 97, hein, le moment où on va commencer à formuler des accords pour faire face au climat, on prend une année de référence qui est 1992, et avant il n'y a rien. Hein, c'est comme si c'était une histoire naturelle, alors qu'en fait c'est aussi une histoire humaine.
Fait, c'était
et donc
route.
On va compter, et donc à partir de là, alors à qui on dit ça? On dit ça essentiellement aux Chinois. Puisque, en chiffre absolu, je pense que la Chine est plus émettrice de gaz à effet de serre que les États-Unis. Pas par individu, mais en chiffre absolu. Et donc, on va lui dire, bah, vous savez, donc il faut prendre vos responsabilités. Ce qui est d'assez mauvaise foi, pour tout dire. Ça a été une façon pour les Bush, pour les présidents américains, de dire, oh ben, nous, tant que la Chine ne fait pas quelque chose, on ne fait rien.
On bouge pas. Parce
qu'elle en fait plus que nous. Bon, je crois que ce qu'il y a aussi, c'est que de plus en plus, et surtout un pays comme la Chine, où il y a un niveau de pollution absolument effarant, sont forcés par leur propre population de faire quelque chose.
Bien sûr, un niveau de pollution, mais pour la santé, extrêmement dangereux.
Extrêmement dangereux. Il y a un certain nombre, il semble que
les villes indiennes,
Chinois,
également.
Dès qu'ils sont un petit peu riches, ils envoient leurs enfants faire leurs études à l'étranger pour qu'ils souffrent moins de la pollution.
On en est
tellement
là.
C'est affreux.
On en est là, et on peut le dire aussi beaucoup de villes indiennes. Hein, je crois qu'aujourd'hui, ça se voit même. Hein, on voit des fogles comme ils existaient autrefois à Londres. Pour conclure, Catherine Larrère, cette idée de l'anthropocène, donc, au fond, la grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas très bien si on peut désigner des responsables. C'est pour ça que vous avez un peu de réticence sur ce terme d'anthropocène.
Alors, j'ai de la réticence, si vous voulez. Ce que je trouve bien sur le terme d'anthropocène, c'est qu'il dit à quel point l'ensemble de notre situation est changée. On a trop souvent tendance à considérer que l'environnement, c'est quelque chose, ou l'écologie, c'est quelque chose qui se rajoute, un élément sectoriel. On va parler de l'économique, du social et de l'environnemental. Dire l'anthropocène, c'est dire que, qu'on soit dans l'économie, qu'on soit dans le social, on est de toute façon dans l'anthropocène. Ça, c'est important. Mais avec cet anthropocentrisme de l'anthropocène, cette façon de mettre l'homme au milieu, c'est constamment des mécompréhensions du genre, ce qu'on disait, la géo-ingénierie, etc. Donc, pour ça, je suis réticente. Mais bon, les termes qui ont du succès ne sont pas forcément des termes parfaits. Hein. Ils attirent l'attention. La question de la responsabilité, à un certain niveau, nous sommes tous responsables. Nous respirons tous. Et nous profitons d'éléments qui ont été produits avec du CO2, en diminuant la biodiversité, etc., etc. Nous le sommes inégalement. Moi, je voudrais qu'on sorte de la culpabilité. Parce que je pense que la culpabilité, c'est aussi c'est une sorte de satisfaction triste, passion triste, aurait dit Spinoza, de passion triste à être dans notre méchanceté. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en sorte. Il faut reprendre confiance. Et pour ça, je pense qu'il faut essayer de dégager la responsabilité de la culpabilité. J'entendais quelqu'un, c'était à propos du nucléaire, qui disait, moi je me considère comme faisant partie des générations... C'est quelqu'un qui avait une trentaine ou une quarantaine d'années. Je me considère comme faisant partie des générations futures, parce que le nucléaire, je ne l'ai pas décidé. À des degrés divers, nous sommes dans un monde qui a été fait par d'autres. Donc, nous ne sommes pas responsables autant que les autres. En même temps, nous acceptons ce legs. Nous continuons à vivre dans ce monde.
Bien sûr.
Donc, je pense qu'il faut se dire que... Alors, je sais que ça a beaucoup choqué quand Georges Dufoy avait dit « responsable, mais pas coupable ».
Je pensais à cette formule en
vous
écoutant.
Mais c'est pas faux. Si on pouvait se sentir lié aux autres, dans une responsabilité relationnelle, engagé dans le même bateau, sans pour autant qu'il y ait à identifier les coupables et à désigner les coupables. Il y en a qui sont plus coupables que d'autres. Hein. Monsanto est beaucoup plus coupable qu'un agriculteur bio, c'est sûr. Mais... on ne va pas chercher des boucs émissaires. Il faut condamner ceux qui polluent, ceux qui s'en moquent complètement. Mais nous autres, qui sommes responsables, mais quand même moins coupables, il faut que nous nous sentions liés et que nous sortions d'une culpabilité qui ne mène à rien.
Voilà. Et puisqu'on est dans les termes comme ça, est-ce que le terme de contrainte aussi vous dérange ? Parce qu'au fond, on a beaucoup parlé d'environnement, enfin de lutte contre le réchauffement climatique, en termes de contraintes. Les États se sont engagés, enfin...
Oui, il en faut, hein, il en faut. Si on ne voit que des contraintes, on ne fera rien. Il faut y trouver un certain plaisir, et il faut y trouver des éléments positifs. Et je dirais, par exemple, contraintes, ça ne me gêne pas trop. Renoncement, ça me gêne. Renoncement, ça me gêne, parce que c'est une idée religieuse.
Une dérogeant, à partir de maintenant, terminé, on ne mange plus de viande, on ne fait plus tel et tel, on ne prend plus l'avion.
On renonce, comme si c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Je crois qu'il faut sortir de cette espèce de façon religieuse de battre sa coulpe.
Oui, mais comment faire ?
regardez ce qui se fait. Il y a des choses qui changent. Il y a d'autres façons de vivre qui se font. Il y a quantité. Alors bon, si on dit les jardins partagés, ça va faire rire tout le monde. Mais il y a des modes de vie différents.
Ça marche très bien dans les villes.
Oui. Il y a des modes de vie différents qui s'éprouvent et dans lesquels on prend plaisir à vivre.
Et c'est cela que vous suggérez. Donc on termine en disant qu'anthropocène...
Non, on va le garder. On va le garder. Mais de toute façon, les mots... Je veux dire, je suis philosophe, je ne suis pas mathématicienne ni scientifique. Je sais que les mots sont ambigus et on joue dans cette ambiguïté. Bon, ben on fera une grammaire des usages de l'anthropocène. Il y en a des bons, il y en a des mauvais.
Ce titre que nous avons donné, Mauvais départ pour le siècle, comment mieux préparer l'avenir, ça vous convient ou vous pensez...
Pourquoi pas ?
On est quand même mal parti, vous le dites aussi.
Faut pas désespérer, voilà.
Et merci à notre équipe, Anne-Laure Chanel et Pierrick Monsigny ce soir, puis Sandrine Chaperon et Catherine Donnet qui assurent la préparation et la documentation avec Nino Lima, notre stagiaire.